Bonsoir chers et fidèles auditeurs de RM et bienvenue dans ce nouveau numéro de musique classique au cœur des symphonies. À la sono et aux enregistrements, notre chef d'orchestre exceptionnel Damien, que l'on ne présente plus et sans qui votre radio et votre mensuel musical n'existeraient pas. Merci d'avance Damien. À la narration, votre serviteur Eric qui va essayer de vous informer à défaut de vous intéresser. Ce mois-ci, veille des grandes vacances d'été, nous allons vous faire un cadeau sublime. Entre le génie et le baroque, entre l'exceptionnel et l'extraordinaire. En fait, et en vérité, non pas entre d'ailleurs, mais avec, tant l'invité du mois ressemble ou rassemble en ses mains et son esprit tous ses qualificatifs. Et vous le croirez ou pas, mais c'était plutôt mal parti pour le petit drôle qui allait devenir la référence pour tous, et surtout qui n'a pas vraiment eu de bol. Toute sa famille, toute sa famille était célèbre, depuis longtemps, et talentueuse. Comment dès lors s'en sortir pour que les siens soient fiers de lui? Par le travail. Toujours le travail, encore le travail. Et une bonne part de génie quand même, un sacré coup de pouce divin, qu'il va saisir. Mais le petit Allemand n'était pas à proprement parler musicien, ou plus exactement pas au sens où on l'entend d'habitude. Bien sûr, ses doigts n'étaient pas gourds, loin s'en faut, mais ce serait plutôt ses études, ses analyses, puis ses adaptations qui révélèrent son talent complètement ignoré de son vivant d'ailleurs. Oui, de son vivant, il est ignoré. Avant que des dieux de la musique au nom de Mozart ou Beethoven s'avisent qu'en fait, à côté de lui, il n'était que des gamins. Vous imaginez ce que je viens de dire, chers auditeurs? Eh oui, c'est de la folie, de l'ubuesque. Bref, de la symphonie. Ce même Mozart qui, découvrant d'ailleurs un peu plus tard, évidemment, un motet de notre invité, s'écriera « Complètement halluciné, diraient les jeunes maintenant, pour la première fois de ma vie, j'apprends quelque chose. » Sans commentaire. Mille, oui, chers auditeurs, plus de 1000 compositions, une somme incroyable et immense. Et de tout, en plus de tout, des œuvres vocales, des sonates pour orgue, clavecin, du piano, des musiques de chambre et bien évidemment des orchestres et concertos. Tout ça chez un même bonhomme. Vous entendrez quelques passages de ses œuvres inoubliables, où l'art du contrepoint atteint des sommets inconnus, voire impossibles. Oui, je dis bien impossibles. Mais il est temps de laisser un célèbre chef d'orchestre faire l'apologie de l'invité. Je cite « Aujourd'hui, comme autrefois, il est le saint qui trône, inaccessible au-dessus des nuages. Il fut le plus grand des musiciens, l'homère de la musique dont la lumière resplendit au ciel de l'Europe musicale. Et qu'en un sens, nous n'avons toujours pas dépassé. » Ainsi parlait le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler. Alors, comptons de suite la vie, l'histoire et la grandeur d'un immense compositeur universel. Ce mois-ci, juin, veille de vacances, vendredi, 17h, émission au cœur des symphonies. Invité, Johann Sebastian Bach. Vive la musique. Et de suite, que jouait-on en 1680 ? Et oui, 1680, vous aurez reconnu Jean-Baptiste Lully, une marche évidemment. Le temps des rois en somme. Bien, Jean-Sébastien Bach est né à Eisenach, on devrait dire, on va le prononcer en allemand, Eisenach, le 21 mars 1685. Mais dans notre calendrier, le grégorien, ce serait plutôt le 31 mars 1685. Son père, Johann Ambrosius Bach, était trompettiste à la cour du duc et musicien de ville. Sa mère, Elisabeth, élevait ses enfants et pour cause. Ils eurent huit gamins, dont seulement quatre survivront. Donc, Johann Sébastien. Alors, on dit Johann Sébastien, nous on a toujours dit, on l'a francisé en Jean Sébastien. Bon, c'est comme ça. Celui-ci sera baptisé dans la confession luthérienne, le 23 mars de cette année de naissance, à l'église Saint-Georges de cette même ville. En fait, les Bach sont une très vieille famille de musiciens réputés. Ils sont originaires de Hongrie, pays qu'ils ont naguère déserté pour fuir les persécutions religieuses, envers les protestants évidemment. L'histoire nous dit que les Bach sont la famille de musiciens la plus prolifique de son temps. Tous les ancêtres de notre invité en sont célèbres. On ne le redira jamais assez. Tous, ils sont tous célèbres. Cela augurait que du très bon pour l'avenir. Vers l'âge de 8 ans, Jean-Sébastien fréquente l'école de latin des Dominicains d'Eisenach. Mais voilà, dès l'âge de 9 ans, c'est-à-dire un an après, quoi, en fait, il devient orphelin de mère. Son père, alors violoniste, lui donne sa première éducation musicale. Puis son oncle, Christophe, prend le relais et l'initie à l'orgue et à la musique religieuse. Il n'a que 9 ans à cette époque-là. Hein, 9 ans. Son père, donc, hélas, ou heureusement pour lui, je ne sais pas, son père se remarie très vite, avec Barbara Margareta Bartholomaus et décède tout aussi vite, le 20 février 1695, c'est une erreur. Jean-Sébastien a alors 10 ans. Nous sommes en 1695. Que jouait-on ailleurs, en Europe, à cette époque? Eh bien, par exemple, Michel Delabarre, un grand violoniste, nous proposait une sonate inconnue pour la flûte. Bien, Jean-Sébastien a 10 ans. Il sera recueilli par sa tante, dont 5 des 9 enfants seront musiciens. Et de talent en plus, oui, tous de talent. À Hordelf, il fréquente le lycée, acquiert une culture encore plus approfondie que ses aïeux. Et croyez-moi, chers auditeurs, plus approfondie, ce n'est pas rien. Ainsi, il se forme aux instruments à clavier. D'ailleurs, il s'y montre extrêmement doué, les jeunes sans doute. Si bien qu'il travaille déjà, comme choriste au sein du chorus musicien. Les 20 musiciens, quand même, ensemble. Hein. On le voit, il s'agit, même jeune, d'aider financièrement sa famille adoptive, mais on voit de suite se dessiner un trait de caractère particulier chez le jeune Jean. La passion d'apprendre. Oui, la passion d'apprendre. Cette même passion qui fera de lui un connaisseur érudit et respecté de toutes les cultures musicales européennes. Toutes. Et il n'y avait pas tant de personnes possédant cette qualité. Ce sujet, on dira souvent de lui que c'est un prodigieux empirique. Il découvre, en fait, il invente, hein, qui dévore, travaille, imite, corrige, refait, impose. Va aller savoir de quoi. Son génie fera, évidemment, il avait un peu de génie, en fait, et beaucoup, on le verra plus tard, son génie, évidemment, fera le reste. Mais il a travaillé pour en arriver au sommet, beaucoup travaillé, énormément travaillé, d'où le respect, et ça c'est vrai, d'où le respect dont il sera toujours, toujours entouré. Respect mérité, donc. Nous sommes en 1700. Jean-Sébastien Bach, 15 ans, et s'en va parcourir à pied 300 kilomètres, oui, c'est pas rien à peine, hein, pour rejoindre un ami parti rejoindre un pensionnat, celui de Saint-Michel de Lunebourg. Et pourquoi donc irait-il si loin? Oui. Eh bien, à Lunebourg, là-bas, il existe une manicanterie, celle de Michael Lischule, qui accueille des jeunes garçons, genre de grande communauté, quoi. Qui accueille des jeunes garçons, pauvres généralement, mais ayant une belle voix, genre des mini-ténors, quoi. Donc, il y va pour son copain, en fait, mais pas que pour son copain. Non, non, non. On l'a dit, Jean-Sébastien Bach s'intéresse à tout, ou presque. Et là-bas, qu'entend-il? Qu'entend-il? Eh bien, par exemple, ceci, un certain François Couperin, qui nous joue la barricade mystérieuse au clavecin. Oui, dans ce pensionnat, on lui enseigne, la rhétorique, le latin, le grec, le français, bien sûr, et c'est l'occasion pour lui de rencontrer, par exemple, Georges Boyne, qui l'initie au style musical d'Allemagne du Nord, très particulier au demeurant. Hein. Autre exemple, il rencontre également des musiciens français, immigrés, hein, tels Thomas de la Selle, un élève de Lully qu'on a entendu tout à l'heure, et professeur de danse. Or, ils apprenaient beaucoup de choses quand même, latin, grec, français, rhétorique, c'était costaud quand même. Or, et c'est la vie, Jean-Sébastien est jeune, et comme tout ado, sa voix va muer. Fini, hélas, le chant, et il va changer son fusil d'épaule. Il part à la rencontre de la pratique instrumentale, comme l'orgue, le clavecin ou le violon. Nous sommes en 1701, et là, gros coup de bol quand même, il se rend à Hambourg, où il rencontre Vincent Lübeck et Adam Rinke, deux grands virtuoses titulaires des plus belles orgues d'Allemagne du Nord. C'est pas un coup de bol, ça? Ah oui, vraiment. Pour lui, c'est un vrai coup de bol, mais pour nous aussi, bingo. D'ailleurs, on connaît tous Lübeck, y a pas de souci. On va vous montrer un extrait, vous faire écouter un extrait de Vincent Lübeck en mi majeur, la prélude, un prélude et une fugue. Thank you. Oui, Vincent Lubeck en mi majeur, ça c'est du lourd, hein, c'est du bon. Bien, nous sommes en 1704, 3 ans plus tard donc, et Bach est diplômé et accepte un poste de musicien de cour, titre ronflant évidemment, dans la chapelle du duc Jean-Ernest II de Saxe-Weimar en Thuringe. Je disais donc titre ronflant car en réalité il est employé comme violoniste et laquais. Eh oui, chers auditeurs, encore une fois, laquais, oui, il faut bien vivre, hein, il faut manger. Violoniste donc à la cour, mais pas que. En fait, en 7 mois seulement, il se forge une solide réputation d'organiste, au point d'être invité à inspecter, puis inaugurer, le nouvel orgue de l'église Saint-Boniface. À ce moment-là, Jean-Sébastien Bach a 18 ans, et il sait très bien, mais alors très très bien ce qu'il fait le garçon. Ah ça oui alors, si bien que justement, suite à l'inauguration de l'orgue, où il a fait forte impression auprès de tous les seigneurs, hein, évidemment riches bien sûr, on lui propose le poste d'organiste, c'est-à-dire pas trop de boulot, un excellent salaire, et surtout l'accès illimité à un orgue tout neuf et moderne. Alors là, rebingo, et il va en profiter, croyez-moi, il va vraiment en profiter. En notre plus grande joie, puisque, ayant du temps devant lui, disais-je, il élabore son art du contrepoint, sa maîtrise des constructions monumentales, c'est rare. Il va élever ses deux arts à des sommets jamais atteints, voire, dit-on, impensables. Sauf que les patrons de l'église lui reprochent d'être un peu trop autoritaire, d'abuser des visites, figurez-vous qu'ils visitaient les caves à vin de l'église, alors là, ainsi, c'est pas de bol ça, hein, ainsi que de nombreuses, disait-on à l'époque, de nombreuses et fréquentes fréquentations peu orthodoxes dans une église, évidemment. Ah, les femmes, toujours les femmes, l'homme dans sa plénitude. Donc de l'eau dans le gaz. Mais comment en profiter? Eh bien, JSB, justement, va s'éclipser. À 60 km de là, en l'église Saint-Blaise de Milkhausen, suite au décès de l'organiste en poste. À Pâques, de l'an, nous sommes en 1707, il passe brillamment l'audition. L'audition pour être engagé, pour trouver du boulot, quoi. En fait, si haut la main, d'ailleurs, il la passera, cette audition, qu'il aura des exigences. Écoutez bien les exigences. Ça va être curieux, hein. Alors, il exige le même salaire que précédemment, plus des avantages en nature. Quels sont-ils? Vous allez rire. Il veut 3 mesures de blé, du bois de chauffage et du poisson. Voilà, ça c'était les avantages en nature. Accepté de suite. À la même époque, il reçoit un petit héritage, tout petit héritage d'un oncle. Et le 17 octobre 1707, il convole avec Maria Barbara, sa cousine d'ailleurs, dans l'église voisine de Dolheim. Maria, dont il admire le timbre soprano. À cette occasion, entre nous soit dit, ça c'est une aparté, il doit quand même se battre pour trouver une place à sa femme lors des représentations. Parce qu'à cette époque, et ce d'ailleurs, entre nous soit dit, jusqu'au 19e siècle, il n'y a pas si longtemps, les femmes ne sont pas admises à la tribune d'honneur. Non, elles doivent rester au fond de salle. Ils auront ensemble 7 enfants, dont 4 atteindront l'âge adulte. Et dès lors, se sentant pousser des ailes, il est heureux, quoi, en somme. Son travail est récompensé par la représentation de sa nouvelle cantate, BWV 71, inspirée du Bruxtehude et donnée dans le Marienkirche. Bien, c'est en ces lieux, justement en ces lieux, qu'il composera sa cantate, sa première cantate très poignante, exceptionnelle, dite Aus der Tiefen, BWV 131. Un vrai monument, une cantate, prélude aux œuvres liturgiques. Ah, plus que des œuvres, plus que de l'orgue. En voici un court extrait. Thank you. Nous sommes en 1708, le 4 février exactement, et Jean-Sébastien Bach a 23 ans. Le gouvernement de Miles Ocean est si satisfait de lui qu'il édite à ses frais cette fameuse cantate, l'une des rares d'ailleurs connues, conservée, publiée de son vivant, et la seule cantate d'ailleurs. Désormais, Jean-Sébastien a fait le tour de cette province. Il s'en va donc poursuivre sa vie un peu plus loin. Il a adoré changer. Il va poursuivre sa vie à Weimar. Très bien. Une petite digression pour l'information de nos auditeurs. Une des particularités de Bach, vieux comme jeune d'ailleurs, sera de composer des cantates pour 5 années complètes de cycle liturgique, soit en fait plus de 300. Lui, il travaillait pour 5 années à la fois. Pouf, il écrivait, après s'est reposé. On notera également une précision dans la numérotation de sa musicologie. La plupart de ses œuvres sont notées BWV. Ça, comme beaucoup d'autres, hein, ils avaient leurs initiales. Presque tous les éditeurs des génies de la musique ont fait de même. Hein, à savoir que dans le cas de Bach, ces trois initiales, BWV, correspondent à Bach, Werke Verzeichnis, catalogue en français, catalogue des œuvres de Bach. Ce catalogue fut établi par Wolfgang Schmeder en 1950, et voilà tout ce que vous deviez savoir. Vous rappelez-vous que pour Mozart, Beethoven, etc., ils avaient d'autres lettres, K, par exemple pour Mozart, K51, etc. Ben lui, c'était BWV. Bien, reprenons la vie et l'œuvre de notre invité du soir, ou du moins. Dans la ville du duc de Saxe-Weimar, Guillaume Ernest, Jean-Sébastien devient organiste et premier violon soliste, ça c'est bien. Il y restera quand même 9 ans, pendant lesquels, disposant de l'orgue, mais aussi de l'ensemble instrumental et vocal du duc, ce qui lui permet de composer de nouvelles cantates, ou nombreuses en tout cas, des pièces pour clavecin, mais surtout, de composer la plus connue de ses œuvres pour orgue, la célébrissime Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565. On le sait, JSB est attiré par les grands maîtres français, on l'a dit tout à l'heure, hein. Mais bien plus, hélas, c'est comme ça, par les Italiens, dont il adopte les aspects stylistiques, qu'il faut alterner solo et tutti. Un exemple nous en est donné avec l'alternance solo-tutti matérialisée par le passage du clavecin inférieur au clavecin supérieur. Par exemple, la suite anglaise numéro 3 pour clavecin, BWV 808 en sol mineur. Neuf ans à Weimar. Eh bien, c'est long pour lui, et JSB, au final, s'ennuie. D'ailleurs, suite à un différend d'ordre professionnel, il voit lui passer sous le nez un poste important. Alors, il cesse d'écrire, des cantates, par exemple, pour Guillaume II, d'autorité, comme ça. Non mais, c'est qui le bosse, quand même, hein ? C'est alors que le beau-frère du duc Guillaume, le prince Léopold d'Anhalt-Köthen, impressionné par sa musique, lui offre le poste de maître de chapelle. Un poste de maître de chapelle. Avec ce poste, justement, Bach pourra être appelé Erzkapellmeister. Grosse promotion, hein. Ah oui. Et Jean-Sébastien accepte. Et le duc pète une colère et fait emprisonner notre musicien durant un mois. Ah ouais, du 6 novembre au 2 décembre 1716. C'était comme ça. Bach compose alors, en prison, les 46 chorales du petit livre d'orgue, Orgelbüchlein. Qu'importe, il ne cédera pas, il préfère rester en prison, à son royal geôlier, et demeurera Kapellmeister de décembre 1717 à avril 1723, soit pendant 6 ans. Il n'a pas cédé, il est resté 6 ans. Eh oui. Quelques précisions. La cour du prince Léopold aime la musique. L'ambiance y est informelle et le prince traite ses musiciens comme ses égaux, les amenant même à Kastat pour prendre les bains, en cure, quoi. On ira à Biarritz, donc, quoi, en somme. Ici, Jean-Sébastien Bach est bien payé, fort bien payé, environ 400 talents par an. Le talent, c'est un peu, c'est un peu, si on veut, l'ancêtre du dollar, hein, si on voulait faire la similitude, genre d'une monnaie universelle, si vous préférez. Pour cause de puissance de l'Empire germanique, c'était les plus puissants alors. Mais nous sommes en 1600 et des poussières. Vers 1830, pour donner une simple idée, c'est-à-dire, mettons 200 ans plus tard, allez, on va dire 150 ans plus tard, pour donner une idée, un talent vaut environ 4 francs. Et au début du siècle, vers 1900, il est équivalent à 3 marques. 3 marques. Bref, 400 talents par an fait de JBC, JSB, quelqu'un d'aisé, de très aisé. Le prince devient le parrain du petit dernier des Bach, Léopold Auguste, au moment où la petite principauté de Anhalt-Köthen devient un important centre musical. En partie, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, grâce à Bach. Et la musique représente, tenez-vous bien, pour cette principauté, un quart du budget de la principauté, un peu comme si Monaco consacrait un quart de son budget à la musique, ce qui est absolument incroyable. Bach n'a donc pas de raison de s'en faire, et on connaît le génie. Et on connaît même tous les génies. Ils ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont très heureux ou très malheureux. Ben c'est comme ça. C'est ainsi, c'est aussi le cas avec Jean-Sébastien, qui créera donc ses plus grandes œuvres pour luth, flûte, violon, clavecin, violoncelle. Là naîtront les 6 concertos brandebourgeois, bien sûr. Et surtout, le célèbre deuxième mouvement, on l'a appelé R, de la suite orchestrale numéro 3 en Ré majeur, BWV 1068, autrement appelé Sarabande. Madame Julia Fischer nous en donne un extrait. Le 17 juillet 1720, Madame Bach, son épouse, décède et le musicien en est profondément affecté. Mais il se remarie tout de même un an et demi plus tard, hein. Ben ouais, faut pas rêver non plus, avec Anna Magdalena Wilke. Mais la vie continue et la deuxième ou la seconde femme du prince, vraiment un peu sensible aux arts du coup, détourne son époux princier, et puis surtout son argent hein, d'ailleurs, au profit d'autres amusements on va dire. Et Bach s'en va donc chercher un nouvel emploi. Eh oui, toujours pareil. Son regard se tourne vers Hambourg, puis Leipzig. Il postule, obtient le poste de cantor, fonction moins prestigieuse que Kapellmeister, et se met à composer. Il fallait manger, hein. La Passion, selon saint Jean, naîtra dans l'église Saint-Thomas de Leipzig, même si cette ville n'a pas d'orchestre de cour, et même pas d'opéra. Non, puisque l'opéra a refermé ses portes. Sauf que Bach doit nourrir sa famille, hein, et il n'y a pas le choix. Hein. Et il prend ce qu'il trouve, car les temps sont durs pour la famille. Devinez donc les raisons que donnent les responsables de l'église luthérienne Saint-Thomas à l'embauche de Bach. Quelles sont ces réponses-là? Alors là, chers auditeurs, tenez-vous bien, car les voici textuellement, traduites bien entendu. Les voici. Pour des raisons importantes, la situation est délicate, et puisque l'on ne peut avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. Donc, Bach est médiocre. Ben c'est moi, je rêve. Mais à l'époque, hélas, c'était ainsi et son talent ignoré. Bach est donc choisi le 23 avril 1723. Signe son contrat en 14 clauses le 5 mai, très très vite, installe sa famille à Leipzig le 22 mai, et vous savez quoi? Devinez. Il y restera 27 ans. 27 ans dans cette même ville. Fidèle, à une ville qui lui a donné une deuxième chance, on pourrait dire ça. Hein. Même si il faut reconnaître que c'était par défaut, puisque soi-disant qu'il était médiocre. Cette ville où siège une université, un centre d'édition, et qui demeure néanmoins la deuxième ville de Saxe. Emploi occupé, Thomas Cantor, c'est comme ça, mais également directeur musicas, soit directeur et responsable de l'organisation musicale des deux églises principales de la ville, Saint-Thomas et Saint-Nicolas. Là, il y formera les chœurs, il bénéficie de solistes brillants, vraiment brillants, et croyez-le, il fallait ça, parce que, par exemple, pour les cantates, il fallait bien répéter de temps en temps, sauf qu'on ne pouvait répéter qu'une seule fois, qu'une seule répétition avant de la jouer. Le temps était compté. Il fallait donc s'entourer, sinon de talent, au moins les former, ce que Bach fit. Oui, il se les forma. Le 19 novembre 1736, on accorde aux musiciens le titre honorifique de compositeur de la chapelle royale de la cour de Saxe. Waouh! C'est ronflant quand même, excellent titre, brillant, réputé, ce qui lui rapporte que dalle, mais que dalle. En fait, c'est une promotion, mais sans salaire. Eh oui, c'était comme ça, hein. Ben voyons, à l'époque, c'était courant. Et c'est ici même, à Leipzig, qu'il composera la majorité de ses œuvres sacrées. Il y restait 27 ans, hein. Mais également, le deuxième livret du clavier, bien tempéré. Aussi, un important corpus pour orgue. Quatre passions, dont le célébrissime Matthäus, un Magnificat, trois oratorio, et la grande messe en si mineur. Mais voici, pour le plaisir, pour se délecter, un extrait justement du célébrissime Matthäus, BWV 244. On va faire écouter la première partie. Le numéro 1, les chœurs, sont de Herbert von Karajan. Voilà. Jean-Sébastien Bach consacrera les 10 dernières années de sa vie. C'était beau ça, hein, Matthäus, hein. Donc les 10 dernières années de sa vie à la musique instrumentale, renonçant à ses activités de cantor. Vers 1747, il intègre la Correspondienzende Sociedad del Musicalischen. Alors après, il y a marqué Wissenschaften, pour laquelle il fournit chaque année une communication scientifique. Dans son cas, il sera évidemment musical, ainsi que son portrait à l'huile. C'était ainsi que le voulait la tradition. Pour cette société, donc, il publie les variations canoniques en 1747, l'offrande musicale en 1748, et bien sûr, on ne peut pas passer à travers, et bien sûr, l'art de la fugue. Eh oui, l'art de la fugue. À cette période, vers la fin de sa vie, donc, un grand artiste, Johann Niklaus Sorbel, dira de lui, il ne pouvait toucher une plume sans produire un chef-d'œuvre. Et là, je crois que tout est dit, n'est-ce pas? Mais déjà, depuis 2 ans, en fait, Jean-Sébastien Bach commence à perdre la vue. Et ça s'aggrave vraiment, vraiment. Si bien qu'au printemps 1750, il s'en va consulter un ophtalmiatre, oui. C'est en fait l'ancêtre des ophtalmos, quoi, hein, voilà. Qui le soigne tant bien que mal, et plutôt mal que bien d'ailleurs, à grands coups d'opération de la cataracte. Imaginez une seconde ce que pouvait être une opération des yeux en 1750. Hein, et on aura un très, très vague aperçu du résultat. Mais voyez-vous, il n'y avait que ça à l'époque, et il fallait bien faire avec. Jean-Sébastien ne survivra pas plus de 6 mois. Et le 18 juillet 1750, bizarrement, soudainement, il recouvre la vue pour tomber d'une attaque d'apoplexie quelques heures plus tard. Ça n'a pas duré longtemps. Il souffrira 10 jours. 10 jours de plus, et s'éteindra chez lui le 28 juillet 1750. Sa veuve, Anna Magdalena, lui survivra 10 ans, et vivant, ben ma foi, comme elle pouvait, de charité, de subside. La misère, quoi, la misère. Mais, si on le veut bien, écoutons tout de suite le fameux, la fameuse, art de la fugue. C'est énorme, énorme. BWV 1080, écrite en 1750. On l'a dit, de ces deux mariages, Jean-Sébastien aura 20 enfants, dont 10 mourront à la naissance. 4 deviendront par contre de bons, très bons compositeurs, loin d'égaler tout de même leur père. Nous savons aussi qu'au contraire de la plupart des artistes de l'époque, comme maintenant, en fait, c'est un peu maintenant, c'est pareil, hein, Bach ne recherchait pas une gloire. Personnellement, maintenant il recherche que le pognon, mais seulement celle de Dieu, gloire qu'il lui consacre pleinement au travers de multiples manuscrits, presque toujours terminés par les initiales SGD, Soli Deo Gloria, à la gloire de Dieu. Néanmoins, même si Jean-Sébastien, mais avec lui du moins, la musique baroque a atteint son apogée et son aboutissement, hein, il est une vérité historique. De son vivant, Bach n'était pas célèbre, pas connu, mais alors pas du tout. Mort, il est complètement oublié, pour une raison majeure, parce qu'il est passé de mode. Oui, c'est vrai, il a porté le contrepoint à un niveau de perfection inégalé et est considéré comme un virtuose du clavier et de l'écriture musicale, comme beaucoup, rien d'autre pour l'instant. Du moins, c'est ainsi que le voyaient ses contemporains, voilà. Et c'est ainsi qu'il continuait à le considérer. Jusqu'à 35 ans plus tard, oui, 35 ans plus tard, Mozart himself, découvrant une œuvre de Bach, et Mozart c'est pas rien, hein, un motet exactement, s'écrira en plein concert, pour la première fois de ma vie, j'apprends quelque chose. Le petit génie autrichien assimilera l'œuvre de Bach, plutôt son héritage, et son écriture en sera à jamais changée. On sait ce qu'elle advient au travers du Requiem, de la symphonie 41 Jupiter, de la flûte enchantée. Beethoven aussi prit l'exemple sur les variations Goldberg pour composer ses illustrissimes variations Diabelli. Diabelli, évidemment, pour piano. Inspiré par l'art du contrepoint de Bach, il composera sa Missa Solennis, sa plus grande œuvre liturgique. Comme quoi, Bach, s'il n'était célèbre, ne manque pas de le devenir. Oui, mais bien plus tard en fait. Au XIXe siècle, vers, on va dire, 1830, soit presque 100 ans plus tard, il était temps qu'on se souvienne de lui. Quel oubli quand même, quel oubli. Alors oui, peu connu de son vivant, hors d'Allemagne en tout cas, son œuvre comprend plus de 1000 compositions. Elle est considérée comme l'aboutissement de la tradition musicale du baroque et fait dès lors l'admiration des plus grands musiciens. Mieux même. Bach fait l'objet d'un culte inouï chez les musicologues et demeure encore aujourd'hui considéré comme un des plus grands compositeurs de tous les temps. Et on ajoutera, si ce n'est comme le plus grand. Chapeau, monsieur Bach. Et avec Damien, nous ne résistons pas à l'envie de nous quitter, évidemment sur un extrait sublime des variations Goldberg en 1742, BWV 988, c'est l'aria da capo jouée par monsieur Glenn Gould. Glenn Gould, oui, les variations Goldberg, oui, notamment qui ont inspiré, on l'a dit tout à l'heure, l'immense, l'énorme Jean-Sébastien Bach, mais surtout, quoi il s'appelle, Ludwig van Beethoven. Oui. Ainsi se termine, hélas, chers auditeurs, le numéro 5 de votre magazine de musique classique au cœur des symphonies. Nous nous retrouvons à Noël pour notre géant, oui, bien sûr. Mais dans l'immédiat, merci de votre fidélité, merci à Damien, à YouTube, et l'équipe souhaite de bonnes vacances d'été à tous nos auditeurs. Nous nous retrouverons pour l'histoire au début septembre. Quant à monsieur Jean-Sébastien Bach, juste pour se quitter, deux petits mots. Dankeschön, Herr Bach.